VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 24 août 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Le porte-parole des putschistes au Mali a démenti une information disant qu'il proposait une transition militaire de 3 ans. Le colonel-major Ismaël Ouagué.
Je tiens à préciser qu'à ce stade des discussions avec l'équipe de médiation de la CEDEAO, rien n'est décidé. À aucun moment, on a parlé de gouvernement à majorité militaire, ainsi de suite.
L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, soupçonné de mauvaise gestion, a été remis en liberté avec l'interdiction de quitter Nouakchott. Le président ivoirien Alassane Ouattara a déposé son dossier de candidature à la commission électorale après des violences meurtrières depuis l'annonce de son 3e mandat. L'ex-président de la République du Congo, Pascal Lissoumba, est décédé ce lundi en France à l'âge de 88 ans, a annoncé son parti. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo s'est rendu à Jérusalem dans le cadre d'une tournée de 5 jours au Moyen-Orient. Ouverture ce lundi de la Convention nationale des Républicains qui a investi comme candidat le président Donald Trump. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Les émissaires ouest-africains ont repris les discussions avec la junte au Mali. Confronté à des protestations, le porte-parole des putschistes a démenti une information disant qu'il proposait une transition de 3 ans. Dans une déclaration avant la rencontre, le colonel-major Ismaël Ouagué a déclaré qu'il n'avait nullement été question de gouvernement militaire au cours des discussions en cours avec l'équipe de médiation de la CEDEAO.
Hier, nous avons été surpris d'apprendre sur certains médias des déclarations qui parleraient des discussions par rapport à la transition au gouvernement, ainsi de suite. Je tiens à préciser qu'à ce stade des discussions, avec l'équipe de médiation de la CEDEAO, rien n'est décidé. À aucun moment, on a parlé de gouvernement à majorité militaire, ainsi de suite. Toute décision relative à la taille de la transition, au président de transition, à la formation du gouvernement, se fera entre Maliens, avec les partis politiques, les groupes sociaux politiques, les syndicats, les groupes signataires, la société civile, conformément à notre première déclaration. Je tiens à rassurer les uns et les autres qu'aucune décision ne sera prise par rapport à la transition sans cette consultation massive.
Le colonel-major Ismaël Ouagué, porte-parole du CNSP au Mali. Le président ivoirien Alassane Ouattara a déposé son dossier de candidature à la commission électorale, appelant à des élections apaisées après les violences qui ont fait au moins 8 morts depuis l'annonce qu'il briguerait un 3e mandat. L'annonce le 6 août a provoqué des manifestations qui ont dégénéré en violence pendant 3 jours, faisant 6 morts, 100 de blessés et 1 500 déplacés. Ce week-end, de nouvelles violences interethniques dans le sillage de son investiture par son parti ont fait au moins 2 morts à Divo. L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, soupçonné de mauvaise gestion et de détournement, a retrouvé la liberté la nuit dernière avec l'interdiction de quitter Nouakchott. Les détails avec Yacouba Ouédraogo.
L'ancien chef de l'État a été remis en liberté tard dans la nuit, selon son avocat Tagioula Aïda. Ce dernier a précisé que Mohamed Ould Abdelaziz n'a pas été inculpé, mais son passeport, qui lui a été pris lors de son arrestation, ne lui a pas été rendu. Il a l'interdiction de quitter Nouakchott, a ajouté Maître Aïda. Sur convocation de la police, M. Aziz s'est rendu le 17 août à la Direction générale de la Sûreté nationale, où il a été interrogé pendant 1 semaine. Il doit répondre des présomptions de mauvaise gouvernance et de détournement de biens publics. Une commission parlementaire chargée en janvier de faire la lumière sur plusieurs dossiers pendant ces années à la tête de l'État a transmis début août son rapport à la justice. Parmi ces dossiers, la vente de domaines de l'État, la liquidation d'une société publique qui assurait l'approvisionnement en denrées alimentaires ou encore les activités d'une société chinoise de pêche. Les députés ont voté fin juillet une loi instituant une haute cour de justice compétente pour juger le chef de l'État et les ministres en cas de haute trahison. Le président Aziz a dirigé la Mauritanie de 2008 à août 2019. Son successeur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani fut son chef de cabinet et ministre de la Défense.
Dans le sud-est du Nigeria, deux agents des services de renseignement ont été tués dimanche lors d'affrontements avec des séparatistes, selon les autorités, tandis que les indépendantistes font état de 21 morts dans leur rang. Le département de la sécurité d'État dit qu'une de ses patrouilles a été attaquée à Emene, dans l'état d'Enugu, par des membres du mouvement des peuples autochtones du Biafra. D'autre part, des États du centre et du nord-ouest du Nigeria ont été le théâtre d'une inquiétante escalade d'attaques et d'enlèvements depuis janvier, a déploré Amnesty International. Les autorités ont laissé les communautés rurales de ces régions à la merci des groupes armés qui ont tué au moins 1126 personnes en moins de 8 mois, indiquait l'ONG. Nous y reviendrons dans la rubrique des dossiers du jour. L'ex-président de la République du Congo, Pascal Lissouba, est décédé ce lundi en France à l'âge de 88 ans, a annoncé son parti, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Monsieur Lissouba, qui a dirigé le Congo de 1992 à 1997, est décédé chez lui à Perpignan. Il avait été contraint de s'exiler en France après avoir été renversé par l'actuel président, le général Denis Sassou Nguesso, lors de violences qui avaient fait plus de 4000 morts en 5 mois à Brazzaville.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Après les démocrates, la semaine dernière, c'est au tour des républicains de lancer leur convention ce lundi pour investir leur candidat. Le président Donald Trump, qui espère rempiler pour 4 ans, il a été investi aujourd'hui. Abdourahmane Dia.
Le président Donald Trump n'avait besoin que de 1276 votes qu'il a rapidement obtenus, sans surprise, faute de challenger. À Charlotte, en Caroline du Nord, où quelques 300 délégués représentant les 50 États américains se réunissent depuis ce matin pour une convention essentiellement virtuelle pour cause de la pandémie du COVID-19. Jason Miller, membre de l'équipe de campagne de Donald Trump, promet que la convention sera très optimiste et gaie. L'objectif est aussi de défendre le bilan du président et répondre aux critiques sur sa gestion de la pandémie de COVID-19. Nous allons montrer l'impact sur les vrais gens qu'a eu le gouvernement Trump-Pence, a expliqué Kellyanne Conway, proche conseillère de Donald Trump, qui a aussi annoncé son départ de la Maison-Blanche pour se consacrer à sa famille. Des personnalités du Parti républicain, des membres de la famille du président ainsi que des leaders de la communauté afro-américaine s'exprimeront durant la convention. Jeudi, lors d'un discours dans les jardins de la Maison-Blanche, le chef de l'exécutif américain acceptera officiellement la nomination de son parti. Devancé dans les sondages nationaux, le président Donald Trump espère encore déjouer les pronostics comme en 2016.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a entamé en Israël une tournée au Moyen-Orient. Celle-ci vise à convaincre des pays arabes de normaliser leurs relations avec l'État hébreu dans la foulée d'un accord avec les Émirats arabes unis. Mohamed Oumfa.
Mike Pompeo a commencé ses entretiens à Jérusalem avec le premier ministre Benjamin Netanyahou, axé sur l'Iran et l'approfondissement des relations entre Israël et des pays arabes. Pompeo et Netanyahou ont relevé plusieurs pays du Golfe s'opposent à la levée prochaine de l'embargo sur la vente d'armes à l'Iran. Après Israël, Pompeo doit se rendre à Khartoum pour exprimer son soutien à un approfondissement des relations Israël-Soudan et à la transition politique dans ce pays qui a tourné la page en 2019 de 3 décennies de présidence d'Omar el-Béchir. Puis il doit aller à Bahreïn et aux Émirats arabes unis. Depuis l'annonce le 13 août de l'accord de normalisation entre les Émirats et Israël, conclu sous l'égide des États-Unis, les spéculations vont bon train sur les autres candidats possibles à une normalisation avec l'État hébreu. L'on évoque Bahreïn, Ouman et le Soudan. La normalisation des relations entre Israël et ses pays arabes favoriserait les échanges commerciaux et technologiques entre eux.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par John Linden.
En RDC, les experts du ministère des Infrastructures et Travaux Publics et leurs homologues de l'Agence de coopération internationale du Japon réfléchissent sur l'élaboration d'un nouveau projet visant à mettre en œuvre le plan directeur des transports urbains de la ville de Kinshasa. À en croire le site Financial Afrique qui cite la vice-présidente de la JICA, Kayashima Nobuko, le plan directeur en question sera financé par le gouvernement japonais à travers la JICA à hauteur d'un peu plus de 32 milliards de dollars américains à l'horizon 2040. La compagnie pétrolière française Total a signé un pacte de sécurité avec le gouvernement du Mozambique pour protéger un projet de gaz naturel de 20 milliards de dollars en cours de développement. C'est ce qu'annonce la compagnie ce lundi. Les forces de sécurité mozambicaines ont combattu une insurrection de bas niveau contre les milices soupçonnées d'avoir des liens avec l'État islamique dans le nord du pays, riche en gaz. Le projet de Total comprend le développement des champs de gaz naturel de Golfinho et Atum et la construction d'une usine de liquéfaction d'une capacité de 13,1 millions de tonnes par an.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Après la défaite, les incidents, 158 personnes ont été interpellées et 151 placées en garde à vue à Paris, dont 49 mineurs, après les incidents qui ont émaillé la soirée de la finale de la Ligue des champions perdue par le PSG. Des heures ont opposé jusque dans la nuit les forces de l'ordre et des groupes de jeunes autour du Parc des Princes et de l'avenue des Champs-Élysées où des voitures ont été incendiées et des magasins vandalisés. Des agents des forces de l'ordre ont été blessés, 12 magasins attaqués, une quinzaine de véhicules dégradés, a indiqué le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Hier, à Lisbonne, le PSG d'Idrissa Gana Gueye resté sur le banc et d'Éric Maxime Choupo-Moting, entré en fin de rencontre, s'est incliné 1-0 en finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich du germano-ivoirien Serge Gnabry. L'unique but de la rencontre a été inscrit par le français Kingsley Coman, un transfuge du PSG.
Comme dire, c'est l'un des plus beaux jours de ma vie au niveau du football. Après, en même temps, j'ai un petit truc quand même dans mon cœur qui est un peu triste parce que Paris, c'est un club forcément qui a vraiment compté pour moi. J'ai grandi là-bas. Donc, il y a beaucoup de joie et un petit peu de tristesse.
Kingsley Coman, attaquant du Bayern Munich. En Côte d'Ivoire, après le courrier de la FIFA demandant le maintien de la commission électorale précédemment suspendue par la Fédération ivoirienne de football, cette dernière s'est réunie en comité exécutif d'urgence. La FIFA a ensuite annoncé, je cite, le maintien de la commission électorale et la reprise des travaux de celle-ci en indiquant que toutes les décisions à prendre doivent être soumises au vote des membres de la commission qui doivent individuellement signer le procès-verbal de la décision. La commission se réunira demain pour entériner toute décision nécessaire par un vote. Pour rappel, le processus de validation des candidatures par la commission électorale avait été bloqué par le secrétaire général de la commission qui a dénoncé des irrégularités et refusé de signer les documents. Les trois prétendants à la présidence de la FIFA, Didier Drogba, Sori Diabaté et Idrissa Diallo, sauront donc bientôt si leur candidature est validée ou non. L'élection est prévue pour le 5 septembre. Les patrons du football australien ont présenté leurs excuses à un ancien joueur aborigène victime de racisme pendant sa carrière dans les années 1970 et 1980. Après une interview de Robert Muir, dans cet entretien diffusé hier, l'ancien joueur de Saint-Kilda, 66 ans aujourd'hui, témoigne des humiliations qu'il a subies, insultes de ses adversaires, crachats de la foule et même des équipiers qui lui urinaient dessus. Depuis la fin de sa carrière, il a été sans abri pendant de longues périodes et a tenté à plusieurs reprises de se suicider. Un supporter de Saint-Kilda a monté une cagnotte en ligne après la diffusion de l'interview qui a récolté plus de 60 000 euros.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Au Mali, les émissaires ouest-africains ont repris les discussions avec la junte à Bamako. Confrontés à des protestations quant à la teneur de ces pourparlers, les militaires se sont empressés d'assurer que rien n'était décidé. Quelques instants avant de s'asseoir face à la délégation de haut niveau dépêchée par la CDAO, Bagessi Koura a joint notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
On peut dire que la délégation conduite par Goodluck Jonathan a commencé la matinée par une visite au niveau de la Cour constitutionnelle, une Cour constitutionnelle qui est dirigée actuellement par Amadou Ousmane Touré. La délégation a eu des informations par rapport aux aspects juridiques du putsch qui s'est opéré au Mali, surtout la démission du président qui, avant même de démissionner, avait déjà dissous l'Assemblée nationale et le gouvernement. C'est après que Goodluck Jonathan et les membres de sa délégation se sont rendus au niveau du ministère de la Défense et des Anciens Combattants. Hier, les discussions portaient uniquement sur le sort du président Ibrahim Boubacar Keïta, dont l'élargissement avait été demandé par la CDAO. Mais malheureusement, les militaires ont posé des conditions. Il fallait une pause hier vers 21h30 afin que les deux parties se retrouvent ce matin à Bagadi.
Alors, il y a eu cette information qui a été démentie ce matin par la junte militaire qui concernait la transition qui devrait être majoritairement militaire et durer sur 3 ans. Qu'est-ce que vous en savez?
À mon avis, ce serait trop tôt de dire la durée de la transition, dans la mesure où même les militaires qui ont pris le pouvoir n'ont rencontré que l'ex-majorité présidentielle. Donc, il y a encore beaucoup de composantes de la société civile qui doivent être réussies par les militaires au pouvoir ici à Bamako. Il y a le gros lot, c'est les M5 RFE qui avaient déjà commencé la contestation, dont les militaires même se disent qu'ils ont parachevé. Et il y a la classe sociale, les leaders religieux, que ce soit chrétiens ou musulmans, mais il y a aussi la forte pression qui vient du monde social à travers les syndicats. Tous ces beaux mondes n'ont pas été jusqu'à présent reçus par les militaires, donc ça serait difficile de se prononcer sur la durée de la transition, étant donné qu'avant même l'arrivée de la CDAO, le porte-parole de la junte en la personne de colonel-major Ismaël Ouagé avait dit que les conditions, les contours de la transition seront déterminés par l'ensemble du peuple malien, chose qu'il a répétée ce matin avant le début des négociations avec la délégation de la CDAO.
L'imam Diko était présenté comme la force morale au niveau du groupe du M5 RFP. Il semble qu'il veut créer un comité national de médiation. Qu'est-ce que vous en savez?
En tout cas, il a fait le portrait robot lors du rassemblement du vendredi dernier. Il veut se faire assister par le président du Haut Conseil islamique, l'influent Ousmane Chérif Madani Aïdra, qui aussi traîne du beau monde ici au Mali. Et il y a le shérif de Nioro Bouye, qui est déjà la personnalité morale aussi pour l'imam Diko. Et les 10 églises catholiques et protestantes doivent être avec lui. En tout cas, dans cette médiation, Diko veut faire la vraie médiation à la base, parce qu'il veut aller toucher les Maliens du plus près, en fait ça son boulot pendant la période transitoire. Mais il a dit Bagassi, Diko ne va pas s'asseoir et voir encore qu'il y aura la corruption au Mali, qu'il y aura de la gabegie, qu'il y aura des détournements des derniers du fonds public, etc.
C'était notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
De nombreuses réactions en République du Congo à la suite du décès ce lundi en France de l'ancien président Pascal Lissouba. Il est considéré comme le premier président élu démocratiquement au Congo, mais il a été déchu à la suite des violences militaires en 1997. Les détails à Brazzaville avec Arsène Séverin.
L'information a été confirmée à Brazzaville par un communiqué lu au siège de son parti UPADS. Sidoine Romaric Moukoukou, le responsable de la communication, en fait le résumé.
Nous venons de perdre un patriarche, c'est l'icône de la politique congolaise ayant marqué l'histoire du Congo pendant ces 60 dernières années. Pascal Lissouba, oui, président fondateur de l'UPADS, est parti.
Philippe Mbungundamba, maire de la ville de Kayi et cadre de l'UPADS.
C'est un jour noir pour moi, je vous l'avoue. Je suis meurtri au plus profond de moi-même. Je retiens de l'homme qu'il aurait fait du Congo la petite Suisse si on l'avait laissé travailler.
Beaucoup de témoignages irriguent le discours des acteurs politiques qui ont connu et travaillé avec Pascal Lissouba. Bonaventure Mbaya, son ministre, rappelle ici de vieux souvenirs.
Il a été mon professeur en première année à la faculté des sciences de l'université de Brazzaville. Et ensuite, j'ai été son ministre. Et nous avons été renversés par un coup d'État en 1997. Nous nous sommes retrouvés en exil avec lui.
Alors qu'il était à l'opposition, Clément Mirassa a été membre du gouvernement de Pascal Lissouba entre 1992 et 1993.
Lissouba laisse un cadeau terrible aux générations futures. C'est le contrat de partage de production au niveau de la production pétrolière. Et c'est peut-être tout ça la base de tout ce qu'il a connu comme malheur.
Touchée par la nouvelle, Claudine Munari, directrice de cabinet de Pascal Lissouba, exprime son regret.
Il a formé, il a inculqué dans nombre d'entre nous cette soif d'amour pour le pays et cet engagement à toujours dire nous sommes les acteurs de la construction de notre pays.
Jean-Jacques Yombi Opango, dont le père a été premier ministre de Pascal Lissouba, regrette une honte ratée du Congo dans l'histoire du monde.
Si le président Lissouba n'était pas entouré de certaines personnes qui l'ont induit en erreur, de grandes choses auraient pu être faites dans ce pays. Nous perdons un très grand monsieur.
Le porte-parole du gouvernement Thierry Mungala salue la mémoire d'un chef d'État et indique que l'État reste aux côtés de la famille Lissouba au cas où il était associé aux obsèques du disparu.
Chez nous, les Bantous, il y a un principe de base, quelles que soient les fonctions et les dignités occupées par le défunt, c'est à la famille biologique d'indiquer quelles sont ses volontés concernant donc la suite des événements et notamment les obsèques. Et je crois que l'État restera attentif à la position de la famille.
Connu comme l'un des premiers scientifiques du pays, Pascal Lissouba a été démocratiquement élu en 1992 alors que le pays faisait son entrée dans la démocratie. Son règne a été émaillé de plusieurs violences jusqu'en 1997 lorsqu'il a été débarqué par son prédécesseur Denis Sassou Nguesso au terme de 5 mois de guerre sanglante et fratricide. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États du centre et du nord-ouest du Nigeria ont été le théâtre d'une inquiétante escalade d'attaques et d'enlèvements depuis le mois de janvier, a affirmé l'ONG Amnesty International, qui a recensé plus de 1100 villageois tués depuis le début de l'année. L'ONG dénonce l'inaction qualifiée de honteuse de l'État fédéral, des gouvernements locaux et des forces de sécurité qui échouent à prendre des mesures efficaces pour protéger les populations. Pour évoquer cette actualité, John Linden a joint Tunde Fatunde, professeur à l'Université d'État de Lagos au Nigeria.
Il y a deux facteurs qui vont te répondre pour expliquer l'origine de cette tuerie qui n'est pas acceptable. Tout d'abord, le gouvernement central n'est pas parvenu à maîtriser les attaques incessantes du djihadisme, que ce soit Boko Haram ou Iswa. Malheureusement, les deux mouvements ont des collaborateurs au sein de l'armée. Le résultat, l'armée est devenue inefficace pour venir à bout à ces djihadistes. En plus, au sein du gouvernement, on soupçonne que de nombreux clés sont de mèche avec ces djihadistes.
Alors, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2015, Muhammadu Buhari avait fait de la lutte contre l'insécurité son cheval de bataille. Jusqu'ici, il n'a pas réussi. S'agit-il d'une volonté politique ou tout simplement il n'a pas les moyens de sa politique?
Il a des moyens, mais sa volonté politique est ailleurs. Je m'explique. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, il voulait créer des conditions idéales pour que les peuples des autres parties de l'Afrique de l'Ouest viennent s'installer au Nigeria. C'est ainsi que ce peuple qui sont en réalité des mercenaires et des djihadistes armés, ont eu la tâche facile pour mettre en pratique leurs intentions, c'est-à-dire s'installer au Nigeria, saisir des fermes, tuer des habitants locaux, et ainsi de suite. Là, il est devenu non seulement incapable de venir devenir en quelque sorte collaborateur complice de l'intention de ce djihadiste. Voilà le problème. C'est ainsi qu'il a refusé, depuis qu'il est arrivé au pouvoir jusqu'ici, de changer les commandants des forces armées. Parce que ces commandants des forces armées sont d'origine peuple et sont en collaboration étroite avec les djihadistes. Voilà la situation.
Alors, à votre avis, donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre cette tuerie ou tout au moins éradiquer cette tuerie dont Boko Haram semble être à l'origine?
Mais malheureusement, la situation, à mon avis, et c'est l'avis des observateurs avertis, c'est que tant que au sein du gouvernement Buhari, il existe des collaborateurs qui sont de mèche avec les djihadistes, la résolution de cette crise n'est pas pour demain. Et le problème, c'est que, on soupçonne que si ça continue ainsi, le pays risque de se démembrer.
Tunde Fatunde est professeur à l'Université d'État de Lagos au Nigeria. Le président américain Donald Trump a été investi ce lundi par le Parti républicain comme candidat à la présidentielle du 3 novembre. Les républicains se sont donné rendez-vous à Charlotte dans l'État de Caroline du Nord où se tient cette semaine une convention nationale réduite et virtuelle en raison de la pandémie. Caroline Presutti s'est entretenue avec des délégués en provenance de tout le pays avant la nomination de M. Trump. Le récit est d'Abdourahmane Dia.
Shirlene Ostrov sort avec prudence. C'est la première fois qu'elle se déplace hors de son état depuis la pandémie. Ostrov est la présidente du Parti républicain à Hawaï, un état contrôlé par les démocrates et où de sévères restrictions anti-Covid sont en vigueur.
Notre économie est décimée. Nous n'avons aucun touriste. Les restaurants sont fermés. Et les gens disent que ce n'est pas la voie. Ce ne sera pas durable.
Il est également difficile d'être républicain dans l'État traditionnellement progressiste de l'Oregon, où Portland en est à son troisième mois de manifestation de Black Lives Matter. Bill Collier dit que le président a fait sa part pour essayer d'y mettre fin.
Quand il a proposé son aide avec des ressources fédérales à Portland pour venir à bout des émeutes et que le maire et le gouverneur l'ont pratiquement ignoré, les populations n'ont pas aimé ça, même ceux qui ne sont pas républicains.
Les démocrates ont dit la semaine dernière que les actions du président Trump avaient aggravé à la fois la pandémie et les manifestations sur les questions raciales. Les sondages nationaux indiquent que leur candidat à la présidence, Joe Biden, a maintenant une avance de 9 points. Mais parmi les républicains, Trump reste populaire. Parmi les Américains, son taux de popularité de 42% est en hausse d'un point en un an. Un délégué du Kansas, Mike Kirkman, a déclaré que les démocrates n'avaient rien dit de nouveau lors de leur convention.
J'ai regardé une grande partie de ce que Biden a dit. C'était juste des attaques contre le président. Il ne nous a rien dit sur ce qu'il allait faire ou son administration ferait s'il était élu.
Biden a choisi la sénatrice de Californie, Kamala Harris, comme co-listière. C'est la première femme noire et première femme américaine d'origine asiatique sur un ticket d'un grand parti. Mais la déléguée de Hawaï, Shirlene Ostrov, pense que cela ne sera pas suffisant pour convaincre les femmes.
Je ne suis pas pour la politique basée sur l'identité. Je suis évidemment une fille d'immigrant. J'ai servi dans l'armée. Je suis une femme de couleur. Rien de tout cela n'est important quand il s'agit de voter pour un candidat.
Les démocrates sont également présents à Charlotte pour essayer de faire changer d'avis certains. Mais ils n'y arriveront pas avec Tracy Hall.
Moi, faire ça? Jamais. Je soutiens le président Trump. Je l'ai soutenu depuis 2016, début 2016. Je pense qu'il est la bonne personne pour nous faire avancer. Il n'y a aucune chance que je soutienne Joe Biden.
La sécurité autour de la salle des congrès est stricte. Ce lundi, seuls 6 délégués par État et territoire sont admis à l'intérieur. Et cela ne s'arrête pas là. Les 336 délégués sont invités à la Maison-Blanche jeudi pour suivre le discours d'acceptation du président Trump.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.